Bonjour. Ça fait longtemps.
Ça va?
Ça fait longtemps.
Pardon, non. Ah oui, il faut faire attention.
Quoi, non, mais ça dérange les gens. Je ne sais pas, ça ne me touche
pas. Bon, les deux trucs. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, mais toi, tu parles donc de ta réunion.
Oui, absolument.
Bon,
alors,
laquelle ?
Écoute, je ne vois rien. Enfin, vaguement, je présume que c'est Jean-Étienne.
Oui.
Giovanni
Stéphane.
Giovanni Stéphane. C'est comme moi,
on attend 2-3 minutes quand même. On peut, oui, moi je peux, hein, c'est pas.
Moi j'ai bien
mangé,
mais la salle est remplie.
C'est
génial. Super.
Bah,
t'as vu, je t'ai mis
3
euros.
Oui, j'ai vu me demander. Et puis d'un coup, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est sûrement.
Voilà.
C'est sûrement elle.
Ouais. Eh bien, oui, c'était elle. Ça brille, c'est pas évident ce truc.
C'est merveilleux, j'ai le de jeunesse.
Ça brille, je vais utiliser ça, je sais pas comment je vais faire. Quand c'est mon tour, tu me dis à toi, tu dis toi.
Moi je vais le dire, oui, Josiane va voilà. Venir, voilà.
J'ai échangé quelques mots avec ta voisine.
Geneviève.
Une dame adorable.
Ah oui, et puis elle est très très délicate dans ce rapport de voisinage.
J'étais venue, pas le moment, mais je demande juste 2 secondes. Ah.
Tu l'as mis en silencieux.
Il est bien peut-être en vie. Ah, voilà, c'est bon. En descendant la rue, déstresse-toi.
Oui.
Déstresse-toi.
Non.
Regarde, en descendant la rue, en venant vers...
Oui, on est sur la rue Jeanne d'Arc. Orléans, souvent, sur le bord de Loire, on a des cieux incroyables.
Quand je traversais le pont Dauphine, j'avais des cieux.
Ah, voilà, monsieur Charleux.
C'est formidable, tout le monde est là.
Oui, c'est sympa.
Bah pour toi, c'est quand même chouette.
Oui, bien sûr.
Merci.
c'est moi qui vais compenser.
Bien sûr, mais
non,
il va dire quelque chose peut-être.
Oui.
Non, tu sais, je n'ai pas changé beaucoup de trucs, je n'ai rien changé.
Non, mais je plaisantais sur le parti passé du subjonctif. Mais non, mais je t'avoue que je n'ai plus en mémoire tout ça, que je n'ai jamais eu. Bonsoir. Eh ben, on est parti, donc tu peux y aller.
On n'est pas encore parti, mais on va partir.
Mais toi, il faut que tu t'approches. Il faut que tu t'approches. On peut le détacher ?
Tu tires.
Je tire ?
Je ne sais pas s'il fait attention à l'ordinateur.
Et
puis, je n'ai pas déclenché mon magnéto. Je l'ai mis,
tu enregistres ?
Ah oui, on enregistre tout.
C'est super.
Non, mais il n'y a pas que moi, on est plusieurs. Alors, mais ça, c'est pas pour moi. Là, c'est
on
pour...
peut la revoir.
Moi, on m'enlève. Ouais. Vous allez parler ici. Moi, je mets ça comme ça. Alors.
C'est un duo, alors.
Absolument.
Duo.
Mais je vais l'expliquer pourquoi. Parce qu'on va parler d'héroïne. On va parler d'héroïne, donc il faut que ce soit les femmes qui parlent.
Ah,
mais
les hommes, ça vont
parler. Oui, mais on en a parlé trop longtemps.
Bien, on va commencer. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Quelques mots d'abord par rapport à notre voyage à Gênes, où jusqu'à maintenant on avait toujours tenu le rythme de que nos voyages aient lieu lorsqu'on les propose. Et cette fois-ci, il y a moins de participants qu'espérés. Donc à ce voyage biannuel, tous les deux ans en Italie plutôt. Et on a encore une semaine pour, jusqu'à la fin de la semaine, plus exactement, mais quelques jours après, ça marcherait quand même, pour vous inscrire si vous avez un remords. C'est une ville tout à fait admirable, en fait, historiquement. Il y a eu une équivalence avec Venise qui est tout à fait évidente. Donc je le voudrais, c'est moi sur lequel j'ai beaucoup appuyé pour aller à Gênes, et je vois que je n'ai pas été suivi. Si j'avais demandé Venise... Si on avait demandé Venise, je pense que le voyage aurait été beaucoup plus plat, mais ce n'est pas Venise. Donc il vous reste quelques jours pour vous inscrire. C'est la première chose. La seconde, j'avais quelque chose d'autre à dire, ouais, j'ai rien noté, et il faudrait quand même que je soigne ma mémoire si je veux continuer.
Le 2 décembre.
Comment ?
Parler du 2 décembre.
Le repas du 2 décembre.
Ah, le repas du 2 décembre. C'est ça, vous voyez, je suis pas passionné, c'est dommage. Bien. Donc il y aura... le prochain Corfi Info vous précisera la manière de vous inscrire au repas de fin d'année qui aura lieu le 2 décembre après la conférence qui sera sur Luchino Visconti. Je rappelle aussi, comme vous avez peut-être vu, que ce sera Annick Gentil qui est où ? Elle est disparue. Ah si, elle est là. Annick, donc, qui vous parlera de Puccini dans 15 jours. Et on aura aussi un film, Violence et Passion, l'avant-dernier film de Visconti, qui sera projeté au Carme le 30 novembre, un dimanche, à 18h. Voilà donc pour un peu l'avenir. Pour le présent, nous allons... Non, je présente...
Oui.
Non, il vaut mieux qu'il parle maintenant. C'est mieux. Attention au fil.
Donc Claude m'a autorisé à vous faire part de la conférence qu'organise l'association du quartier du Noir, quartier qui est situé près de la gare, entre la gare Faubourg Saint-Jean, Faubourg Roche-Plate et la chemin de fer. C'est un quartier très homogène au niveau architecture parce qu'il était construit de 1880 et 1920 principalement.
Oui, ça arrive.
Et ce qui est original, on ne s'en douterait pas à cette époque, c'est une volonté de la mairie de créer un nouveau quartier. Contrairement au quartier nouveau qu'on voit d'habitude, qui s'est quadrillé à la romaine, là, c'est un peu le bazar. Il y a quand même une place, mais ça part dans tous les sens. Donc, ça peut être intéressant. Et au niveau architecture, c'est très varié. Il y a art moderne, art déco, art éclectique. Voilà, donc, c'est le samedi 15 novembre, donc dans 15 jours. Rendez-vous à 18h15, la conférence 18h30. Et elle est faite par une guide conférencière de Orléans, Ville-Marais, de l'Histoire, Anne Bourgeois. Peut-être qu'elle vous déjà suivi les cours de recevoir. C'est cette dame qui arrive en vélo au lieu du rendez-vous, qui a les cheveux courts et qui parle très très bien.
Merci.
Merci.
C'est au FRAC. Merci. Il y a un lieu tout à fait prédestiné pour assurer une conférence de ce genre.
Bien, merci. Je vais donc passer la parole maintenant à
Jean-Étienne.
Oui, Jean-Étienne, mais cherchez son prénom.
Oui, Josiane.
Et à Josiane.
Non, mais la mémoire, ça deviendra maquille.
Bon.
Tout le monde,
t'inquiète. Oui. Et donc, nous allons suivre une conférence au beau titre Itinéraire du regard. Quatre promenades en peinture sacrée. Jean-Étienne, depuis trois ans maintenant, trois saisons, nous propose des conférences. Et donc, il va continuer le plus souvent autour de la peinture, mais toujours de la peinture italienne, bien sûr. Tu as quelque chose peut-être à nous préciser à l'avance. Alors, je vais lui laisser la parole.
Merci beaucoup. Alors d'abord, merci aux accorfiens, accorfiennes et aux parents, amis et voisins, parce que j'en vois de nombreux ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à mon invitation. Et puis il y a des membres de haute qualité de SOS Amitié dans la salle. Pourquoi ? Parce que SOS Amitié vous propose vendredi prochain au Musée des Beaux-Arts, à l'auditorium, à 18h30, une conférence dont le titre est le suivant. Pour une écoute active et une éthique de la parole. Cette conférence sera donnée par Gérald de Garuti. Gérald de Garuti est un metteur en scène, écrivain et dramaturge. Il est le fondateur du Centre des Arts de la Parole. Il a dirigé des spectacles en France, à Londres, notamment à la Royal Shakespeare Company. Il enseigne à Sciences Po et a été dramaturge du Théâtre National Populaire, le TNP, si cher à notre mémoire. Donc ce personnage est à la fois intéressant et la conférence peut l'être. Et SOS Amitié l'est tout autant. Donc pour ceux qui souhaitent nous y rejoindre, on serait heureux de vous y accueillir. Vendredi prochain, au Musée des Beaux-Arts, la conférence est gratuite et c'est à 18h30. Merci par avance. Nous allons pouvoir commencer notre propos de ce soir. Vous dire d'abord que j'ai invité Josiane à me rejoindre pour deux raisons. La première est que j'aime bien que les propos soient tenus à deux voix. Ça me semble toujours, pour moi, plus intéressant. Et la deuxième, c'est que parmi les quatre promenades que nous allons faire ensemble, il y a deux promenades qui se font en compagnie de deux héroïnes. Et comme ce sont les hommes qui ont souvent écrit l'histoire, ont écrit l'histoire souvent des héros plutôt que des héroïnes, je voulais que ça soit une parole féminine qui vous raconte l'histoire féminine de ces deux héroïnes. Voilà les raisons de la présence de Josiane. Ce travail que je peux vous présenter ce soir se fait à partir d'écrits et de vidéos de quatre historiens de l'art. Le premier que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Daniel Arras, historien de l'art, médiéviste et décédé très jeune, trop jeune. Il est décédé en 2003. Il nous a laissé des écrits fort intéressants, mais aussi et surtout, il nous a laissé des émissions de radio, donc des podcasts, avec sa voix qui est si chaleureuse et qui nous explique les choses avec une telle bienveillance que c'est toujours un bonheur que de l'écouter. Les trois autres historiens de l'art à partir desquels nous avons travaillé sont italiens. Le premier d'entre eux, Roberto Longhi. Roberto Longhi, né en 1890 et mort en 1970, un grand personnage de l'histoire de l'art italien, un de ceux qui ont participé à le plus d'attributions d'œuvres dont on avait du mal à attribuer à tel ou tel peintre, et qui a créé une fondation avec son épouse près de Florence, où il accueille énormément d'étudiants étrangers tout au long de l'année. Il a travaillé notamment sur Domenico Veneziano, sur son élève Piero della Francesca, sur Caravage, et à ce propos, il a écrit un livre sur Caravage que voici. Et ce livre a été traduit par un ancien consul français à Venise qui a traduit le livre de Roberto Longhi et qui lui-même a écrit un livre sur le Caravage. Donc on a Roberto Longhi qui a écrit un livre sur Caravage, traduit par Gérard-Julien Salvi, qui était donc consul de France à Venise pendant près de 3 décennies. Et à propos de Roberto Longhi, il faut que je vous dise ce que nous dit Gérard Julien Sali, parce que lorsque Josiane nous lira ce que Longhi dit de telle ou telle œuvre, il faudra l'écouter différemment des autres historiens de l'art, parce que Longhi a une écriture littéraire, une écriture poétique. Voilà ce que dit donc Gérard Julien Sali de l'écriture de Roberto Longhi. Roberto Longhi, qui a eu pour maître spirituel Baudelaire, car il reprend la volonté d'établir une théorie rationnelle et historique du beau, en opposition avec la théorie du beau unique et absolu. Vous voyez le désir de Longhi d'établir la notion du beau d'un point de vue historique, c'est-à-dire fonction aussi de notre propre regard du monde contemporain. Alors pourquoi cela? Parce que pour Longhi, la théorie du beau unique et absolu a pour résultat de chasser la littérature en peinture, et on sait combien est littéraire l'écriture de Roberto Longhi. Donc il faudra prêter une oreille différente aux propos que tiendra Josiane des écrits de Roberto Longhi par rapport à tel ou tel œuvre, par rapport à d'autres historiens, comme Daniel Arras, qui c'est plus la voix qui nous importe que la manière littéraire d'expliquer les choses. Les préliminaires sont faits. Nous voici la première œuvre que l'on vous présente. La première promenade va se passer autour des Madones à l'enfant. Cette première œuvre, elle est de Masaccio. Elle date des années 1420 environ. Et elle se nomme, elle a deux appellations, la Madone Casini, du fait du commanditaire qui était un évêque siennois. Mais surtout, elle a le nom de Madone del Solettico. Le solettico veut dire chatouillis, petit chatouillement. Regardez le geste de cette mère et regardez le geste de l'enfant qui retient la main de la mère, parce que moi, ça me fait penser, la première fois que je l'ai vu, à, on peut le dire aisément, Beaufreux, beaux yeux, nez de cancan, bouche d'argent, et puis on finit. Alors, cette comptine n'existe pas en italien, mais il existe des comptines aussi pour faire découvrir les parties du corps de l'enfant pour son apprentissage. Mais il est vrai que, pourquoi cette première Madone? On a voulu se mettre dans la peau d'un poème, du début d'un poème de Dante Alighieri, dont le titre est « Presi per incantamento », « Saisi par enchantement ». Et moi, je dois avouer que cette œuvre-là, lorsque je l'ai vue la première fois, j'ai été saisi par enchantement, comme on peut l'être par une musique, comme on peut l'être par un paysage, par une rencontre. Mais cette Madone m'a saisi par enchantement parce que Masaccio, tout en gardant, regardez, on a le fond d'or. Le fond d'or, c'est le lieu de la divinité, donc il respecte l'aspect religieux de la commande. On a les auréoles sur le personnage. Mais on a un rapport de la mère à l'enfant qui nous permet de passer de la Madone à l'enfant à la mère, l'enfant, c'est-à-dire du monde religieux au monde profane, et revenir au monde religieux selon nos propres souhaits. C'est ce que fait Masaccio. Et Masaccio, en cela, il suit deux précurseurs, deux frères, qui eux sont siennois. Et vous allez comprendre la différence entre Sienne et Florence sur ces Madones. On a les deux frères Lorenzetti, ici c'est une œuvre de Pietro, et là c'est une œuvre de Ambrogio. Et voyez, là, on est plus d'un siècle avant l'œuvre de Masaccio. On est dans les années 1310-1315. Masaccio, on a dit, autour de 1420. Et donc, ces deux frères sont déjà précurseurs dans son désir de créer un dialogue entre la mère et l'enfant. Contrairement à ce qui se passait avant, voilà ce que nous avions avant les frères Lorenzetti, ce que l'on appelait les Madones de l'Odigistria. L'Odigistria voulant dire « qui montre la voie ». Donc on avait ces Madones, dont je vais vous lire un peu la description. Les Madones de l'Odigistria est un type de représentation de Vierge à l'enfant, dans laquelle la Vierge, qui se tient généralement debout, porte son fils sur le bras gauche et de la main droite présente l'enfant au spectateur, donnant ainsi à la figure du Christ un rôle prépondérant dans l'image. Celui-ci est le plus souvent représenté en train d'effectuer un geste de bénédiction, son trois doigts comme ceci, que l'on rencontre surtout dans l'art chrétien oriental. Voici ce que nous avions avant les frères Lorenzetti, avant Masaccio, qui vient compléter ça. Mais en même temps qu'on a les frères Lorenzetti qui proposent du monde religieux au monde profane et y revenir, c'est selon le désir qui est le nôtre, on a aussi Simone et Martini à la même époque qui, lui, reste dans la tradition de la Madone de Lodigistria. Donc, vous voyez, cet enfant présenté face à nous par la mère. Donc, on a, à un moment de l'histoire de la peinture, on parle là de la pré-Renaissance. On n'est pas encore dans la Renaissance, ni surtout dans la haute Renaissance. On est dans le Trecento et on a là une proposition variée, un éventail assez large de ce que nous proposent les artistes. Pour clore cette première promenade, on ne peut pas vous présenter toutes les Madones à l'enfant, sinon on passerait une semaine ensemble sans manger, sans boire, et je crois que vous m'en voudrez au bout du compte. Pour finir cette première promenade, on va vous présenter cette Madone de Raphaël, la Madone Sixtine. Josiane va nous lire ce que Daniel Arras nous propose comme lecture de cette Madone Sixtine.
À propos de... Pardon. Oh là.
Non, non. Approche-toi simplement.
Ça va là ? Vous m'entendez ? À propos des deux angelots, Daniel Arras nous interroge de la manière suivante. Que font-ils là ? On n'en sait rien, répond-il. Et il poursuit « En fait, je suis persuadé, pour des raisons iconographiques sérieuses, historiques et théologiques, qu'ils sont la figuration chrétienne des chérubins gardant le voile du temple dans la religion juive. Ce à quoi ils assistent même, c'est au fait qu'ils ne sont plus les gardiens du secret et du Dieu invisible. Le Dieu s'est rendu visible. Cette extraordinaire tragédie, car le Dieu, en se rendant visible, signifie qu'il va mourir, est confié à des visages d'enfants, et je trouve cela d'une puissance extraordinaire. »
Daniel Arras nous raconte dans une émission de radio qu'il est allé 6 fois à Dresde pour voir cette œuvre, et à la 6e fois, il dit « Cette œuvre s'est levée, et je n'ai plus besoin d'y retourner, parce qu'il avait découvert le sens que lui voyait de l'attribution à ces deux angelots qui ont cessé leur activité parce que le rideau dont vous voyez là, s'est ouvert au-dessus de la Vierge, elle vient nous présenter le Dieu, sauf que c'est dramatique pour Daniel Arras parce que le Dieu qui se présente à nu sait qu'il va mourir. C'est ce que dit la théologie chrétienne. Dès lors, ces deux angelots ont perdu leur attribut. Mais nous, de questionner, Daniel Arras nous dit, ce sont les chérubins, donc ces deux anges, et nous, de questionner, qui sont ces chérubins, gardiens du temple, du secret dans la religion juive? Pour répondre à cette question, il faut faire mention de l'Ancien Testament, où Adonai avait prévenu Moïse que l'homme ne pourrait le voir et continuer à vivre. Pour éviter que le regard humain ne puisse voir Dieu dans le sanctuaire de l'Arche d'Alliance, un voile était tiré et 2 chérubins étaient postés devant cette arche comme gardiens et protecteurs avec le déploiement de leurs ailes. Alors vous allez voir ici des œuvres très anciennes. Regardez cette œuvre avec ces 2 anges au-dessus du propitiatoire, cette arche d'alliance dans laquelle sont installés les textes sacrés. Mais regardez plus loin, et ça, chacun d'entre nous l'a déjà vu certainement de visu sur le in situ. On est ici à Germigny-des-Prés. Vous avez les 2 anges posés sur le propitiatoire, sur cette arche d'alliance qui conserve les textes sacrés. Et les 2 grands anges sont ceux qui ont le rideau fermé. Et la chapelle, la Madone Sixtine nous présente, dit Daniel Arras, le rideau ouvert, Dieu se présente à nous. Le drame, c'est que Dieu va mourir. Et Daniel Arras est ému par le fait que ce drame est annoncé par 2 chérubins. Voilà la signification qu'il nous donne, ce qu'il nous permet de voir, peut-être, pour certains d'entre nous, n'avons-nous pas vu ainsi, cette œuvre-là de Daniel Arras. Je vais revenir sur l'œuvre de Masaccio, la première que l'on vous a présentée, la Madone del Soletico, pour écouter ce qu'en dit Robert Longhi. Écoutez différemment que l'histoire que l'on vous raconte habituellement. C'est vraiment une écriture étonnante.
La redécouverte, pardon. La redécouverte de l'œuvre et l'attribution à Masaccio sont dues à Roberto Longhi qui écrivait ces lignes en 1950. À tous ceux qui seraient venus à me dire que Masaccio avait peint une Madonna del Solitico, j'aurais répondu par un haussement d'épaules. Le tableau ayant été redécouvert, il convient de se rendre à l'évidence. Masaccio reprend le genre, c'est vrai, du gothique fleuri, mais le renie déjà par la force d'une méditation humaine, nouvelle et profane. Devant le rire grandissant, déjà enflammé de l'enfant, la mère absorbée, le front haut, les lèvres serrées et fines de l'éternelle couturière italienne, semble à peine s'en préoccuper. Son geste, qui esquisse comme une bénédiction, est sur le point de devenir une habitude. Et le prétexte renvoie ainsi à la force de la devise de Dante, qui écrivait « Et comme un nourrisson qui tend les bras vers sa mère quand il a pris son lait pour la joie qui enfin s'enflamme au dehors. » La Divine Comédie, le paradis. Roberto Longhi poursuit. On s'étonne encore que l'un des plus grands des quelques rares inventeurs de ce que l'on convient d'appeler la Renaissance ait pu peindre cette image de la Vierge à l'enfant sur un fond d'or, que l'histoire de l'art a longtemps considéré comme un archaïsme. Un archaïsme peu compatible avec la révolution qu'a constituée la découverte, l'exploitation et surtout la théorisation au début du XVe siècle d'une science nouvelle, la perspective. Ce serait ne pas tenir compte du fait que la commande fut confié à Masaccio par le cardinal Casini, un Siennois, et l'on sait que la ferveur invincible des Siennois à l'égard d'une tradition picturale, remontant au lointain début du Trecento, est demeurée puissamment ancrée dans la culture locale. L'usage du fond d'or y joue un rôle essentiel, tout en faisant partie intégrante d'une pratique de la peinture amoureuse du raffinement. Plus encore, ce serait ne pas voir l'exceptionnelle invention de la mise en œuvre réalisée par le grand Florentin, grâce à laquelle il donne corps aux deux figures présentes dans l'image.
Ce que moi j'ai retenu de ce que nous dit Roberto Longhi, c'est la peinture siennoise faisant partie intégrante d'une pratique de la peinture amoureuse du raffinement. La peinture amoureuse du raffinement, et ceci est vrai, se retrouve chez les frères Lorenzetti. Les frères Lorenzetti qui décéderont tous les deux en 1348 lors de la peste noire, cette période qui a détruit énormément de vies considérablement. Et dès lors, à Sienne, contrairement de Florence, qui renaîtra dans les années 1420 avec justement Masaccio, Brunelleschi, Alberti, Masolino, toute une équipe qui vont inventer notamment cette perspective mathématique, etc. À Sienne, on n'aura pas cette suite parce que les frères Lorenzetti ont disparu. Les deux frères n'ont pas eu le temps de former ses successeurs. Voilà, et à Sienne, on est sensible à ça, à cette pratique de la peinture amoureuse du raffinement. Voilà ce que moi j'en ai retenu et qui m'émeut beaucoup. Nous en avons terminé pour la première promenade. On revient donc à l'œuvre de Raphaël. Et pour poursuivre, pour faire le lien entre la première et deuxième promenade, c'est une œuvre de Raphaël à laquelle on va vous proposer. Et là, nous allons avoir une ensemble d'œuvres qui tournent autour de descentes de croix, des positions du corps, la mise au tombeau, etc., pour voir entre ces œuvres les liens que l'on peut faire ou voir les distances entre ces œuvres. La première œuvre est née d'une histoire réelle dont va nous lire Josiane la raison de l'origine de cette histoire, la déposition Baglioni.
Au début du XVIe siècle, la violence entre factions est relativement courante à Pérouse et dans d'autres régions d'Italie. Les Baglioni sont seigneurs de Pérouse et des régions environnantes. Un épisode particulièrement sanglant survient à Pérouse dans la nuit du 3 juillet 1500.
lorsque Grifonetto Baglioni et certains membres en colère de sa famille conspirèrent pour assassiner une grande partie du reste de cette famille pendant qu'il dormait. Après le mariage d'Astore Baglioni, les Nozze Rosse, qui dégénèrent en massacre. Selon Matarazzo, le chroniqueur de la famille, après l'effusion de sang, la mère de Grifonetto, Atalanta Baglioni, refuse de donner refuge à son fils dans sa maison. Quand il revient en ville, il est confronté à Gian Paolo Baglioni, le chef de famille, qui a survécu à la nuit du massacre en s'échappant par les toits. Atalanta change d'avis et se précipite auprès de son fils, mais n'arrive qu'à temps pour le voir se faire tuer par Gian Paolo et ses hommes. Quelques années plus tard, Atalanta commande au jeune Raphaël un retable pour commémorer Grifonetto dans la chapelle familiale de San Francesco al Prato. Raphaël prend la commande très au sérieux, travaillant et développant son projet pendant 2 ans à travers 2 phases et de nombreux dessins préparatoires.
Nous allons revenir sur l'œuvre, mais voici 2 des dessins préparatoires que Raphaël, sur lesquels Raphaël a travaillé. Et voici l'œuvre définitive. Cette œuvre-ci, nous allons écouter Claudio Strinati. Alors, Claudio Strinati, c'est un historien de l'art, historien de l'art italien plus particulièrement, mais c'est aussi un monsieur, à mes yeux, adorable. C'est un monsieur d'un âge certain. Tous les lundis, il nous invite pour une vidéo de 15-16 minutes. Il est installé sur son canapé, son chat lui rend visite de temps en temps, et il nous accueille ainsi. Cari amici, benvenuti all'opera del lunedì. Chers amis, bienvenue à l'œuvre, au tableau que je vais vous raconter ce lundi, quoi. Et dans l'œuvre qu'il nous présente ici, il nous dit d'abord que la commande de la mère Atalante a pour objet de rendre universelle la mort du fils et apporter à cette dramatique histoire humaine, horriblement humaine, une élévation spirituelle, symbolique, allégorique. Et Strinati, qui a vu beaucoup d'œuvres dans sa vie, nous parle ici d'un détail dans cette œuvre que je vais essayer de vous montrer. Vous avez ici une tige de pissenlit avec sur le haut de la tige la boule de graines. La plante a fleuri, elle est morte, et il nous reste cette boule de graines, un peu comme le geste de la mère à l'enfant tout à l'heure, guili guili. On a tous vu faire, on a sûrement fait, on a tous soufflé ces boules de graines de pissenlit. Et Strinati nous dit quelque chose de symbolique, de très puissant, nous dit-il. Il y a une tige de pissenlit surmontée de ces graines. Donc ici, on pourrait penser que la fleur a connu son plein épanouissement, elle est morte, mais un souffle d'air va permettre de répandre ses graines, et dès lors, de nouvelles fleurs vont naître. Peut-on faire un lien entre la mort du Christ et la mort de la plante? Et si on fait ce lien, dès lors, il faut faire aussi le lien entre les nouvelles plantes et peut-être l'idée de la résurrection. Claudio Strinati nous dit que c'est l'allégorie la plus délicate qu'il a rencontrée dans les œuvres peintes, eu égard à la discrétion de cette plante. Donc cette œuvre dramatique, Raphaël y a apporté quelque chose de très très, une symbolique d'une grande légèreté en même temps d'un sens très profond. Voilà ce que nous dit Claudio Strinati sur cette œuvre. Nous allons poursuivre dans la deuxième promenade avec une œuvre de Caravage, La mise au tombeau. Il s'agit ici d'un tableau destiné à orner l'autel d'une chapelle privée acquise par la famille Vitrice, et cela dans l'église des oratoriens à Rome. Retenez ce mot d'oratorien, on parlera d'un oratorio tout à l'heure. C'est pour Caravage une commande particulièrement prestigieuse, puisque son travail va ainsi pouvoir être admiré dans l'église romaine la plus fréquentée de l'époque, et en compagnie de grands noms de la peinture contemporaine. Josiane va nous lire l'origine du dépôt de cette œuvre dans cette chapelle.
Pietro Vitrice, dont la chapelle célèbre le souvenir, était fort dévot et influencé par l'enseignement de Saint Filippo Neri, fondateur de l'ordre des oratoriens et dont il était l'un des plus vieux amis. Il est probable que l'iconographie de la mise au tombeau ait été influencée par l'un des cardinaux érudits qui était proche de Vitrice et s'intéressait déjà à Caravage. Quoi qu'il en soit, le tableau suit les indications littéraires du Rosario della Gloriosa, Virgine Maria écrit en 1548, par le dominicain Alberto Castello, dont Filippo Neri possédait un exemplaire. Cette fidélité à l'esprit religieux du temps et aux exigences formelles de la réforme catholique peut expliquer l'approbation immédiate des critiques. C'est en tout cas un tableau qui s'inscrit très clairement dans une tradition artistique, plus nettement que les autres commandes romaines de Caravage.
Avant d'aller plus loin sur le sens de cette œuvre que l'on nous propose, Filippo Neri, le fondateur des oratoriens, est considéré à l'époque comme le Socrate chrétien, et ceci pour sa propension à l'ironie. Propension à l'ironie qui ne fut pas étrangère à sa popularité dans le petit peuple romain. Il a une place particulière. Alors, il est favorable à au fait que l'Église retrouve ses assises, etc. Mais il a quelque chose que le peuple... Et c'est pour ça que Caravage... Est... Rappelez-vous, les saints de Caravage ont les pieds sales, il n'y a pas de mystère, quoi. Donc Filippo Neri est dans cette atmosphère-là de ce moment-là. Filippo Neri a créé, en même temps que l'ordre des oratoriens, a créé un hospice à Rome qui accueillait les indigents, les pauvres gens, les voyageurs, etc. Et il ne faut pas oublier de considérer que, en produisant cette œuvre-là, Caravage a passé les premières semaines de sa vie à Rome dans cet hospice-là. Caravage a connu la misère à Rome de longs mois, pas seulement quelques semaines, mais les premières semaines, il a vécu dans cet hospice créé par Filippo Neri, et ce sont les oratoriens, l'ordre créé par Filippo Neri, qui lui passent cette commande, dont on va parler. On va dire aussi, avant d'expliquer l'œuvre, que Caravage a fait partie de cette première génération d'enfants, dans l'atelier de son maître, de cette première génération d'enfants dont le Concile de Trente avait dit qu'il fallait éduquer les enfants, transmettre les savoirs de la théologie, ce qu'on appelle aujourd'hui le catéchisme. C'est la première fois que l'Église décide d'enseigner aux enfants ce qu'aujourd'hui nous appelons le catéchisme. Et Caravage, avec son frère qui deviendra prêtre, fait partie de cette première génération. Donc Caravage a une connaissance de ceci, on va le voir à travers l'œuvre. Quand il compose son œuvre, Caravage pense surtout à Michel-Ange. Alors, un petit point là-dessus. Caravage s'appelle Michel-Ange Cerisi, mais il pense à Michel-Ange Buonarroti, le Michel-Ange de la chapelle Sixtine. Ce sont deux Michel-Anges. Donc, Caravage, lorsqu'il crée son œuvre, pense à Michel-Ange Buonarroti, l'un des rares artistes dont il se soit réclamé explicitement. Et Nicodème, qui est Nicodème? Nicodème est ce personnage-ci. On a deux personnages qui transportent le corps du Christ vers sa sépulture, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Et là, on a Nicodème qui nous regarde. Et Nicodème, Michel-Ange, le Caravage, Michel-Ange Cerisi, le Caravage, lui donne les traits de Michel-Ange Buonarroti. Donc, il y a quelque chose où il rend hommage à Michel-Ange, à son prédécesseur, dont il se reconnaît explicitement être un successeur, mais pas de sa dimension, quoi. Il écrit des choses sur Michel-Ange qui sont dantesques, on va dire, la dimension qu'occupe Michel-Ange dans l'esprit du Caravage. Et donc là, il le représente en Nicodème. Mais ce n'est pas tout. Nicodème est, dans la légende dorée de Jacques de Voracine, considéré comme le premier peintre qui a peint le visage du Christ mort. Donc, lorsqu'il représente le visage, il représente Nicodème sous les traits de Michel-Ange, il représente le premier artiste qui a peint le visage du Christ mort. C'est-à-dire, il lui rend hommage deux fois. Donc, vous voyez que Caravage a un savoir qui est quand même, ce n'est pas que l'homme violent, etc. C'est aussi un homme qui possède un savoir. Un pozzo di sapere, un puits de savoir. Il y a autre chose dans cette œuvre à repérer. C'est la pierre sur laquelle est posé le corps du Christ. Et pour ça, on va faire une différence avec une autre pierre de l'œuvre suivante, Andrea Montaigne. Le corps du Christ mort, simplement. On ne va pas parler de l'œuvre parce qu'on n'a pas travaillé dessus, mais juste vous dire, regardez, au bout de l'œuvre, à l'arrière-plan, on a ici un pot. C'est un baume qui est à l'intérieur de ce pot. On va laver le corps du mort, on va le recouvrir de ce baume, on va lui mettre un linceul et ensuite on va l'amener dans sa sépulture. Là, on est sur une pierre d'embaumement, la peinture de Andrea Montaigne. Ici, ce n'est pas la même pierre. Cette pierre Caravage fait référence au livre des psaumes, au psaume 118-22, qui parle de la pierre d'achoppement, la pierre d'angle, et qui est dit ceci. La pierre choisie par le bâtisseur est devenue la tête d'angle, la pierre d'angle. On sait bien que lorsqu'on veut construire un bâtiment, moi je ne suis pas un architecte, hein, mais il y a une pierre d'angle qui est nécessaire pour la solidité du bâtiment qu'on a élevé. Cette pierre d'angle ici, on peut y voir une allégorie de le Christ est posé sur la pierre d'angle et va devenir cette tête d'angle pour construire l'édifice que sera l'église par la suite. Donc voilà le savoir de Caravage à travers une peinture. Alors une peinture dramatique, bien sûr, mais une peinture aussi qui exprime à la fois une connaissance qu'il a des textes et un espace qu'il va occuper par la suite en tant que peintre, quoi. On va continuer notre promenade à travers les Pietà, etc. On va vous présenter une œuvre, alors là, de Michel-Ange Buonarroti, le Michel-Ange de la chapelle Sixtine. Pardon, juste avant de venir à celle dont on vous parlait, voici une œuvre de Michel-Ange, une Pietà, où lui-même se représente en Nicodème. Vous voyez ? Michel-Ange lui-même se représente en Nicodème. Vous voyez, Caravage le représente en Nicodème, sous les traits de Michel-Ange, et Michel-Ange se représente lui-même en Nicodème, ce personnage qui vient protéger Madeleine, la Vierge et le Christ mort. Voilà, ça c'était juste... Mais c'est cette œuvre-là sur laquelle on va s'arrêter un moment. Et là, c'est Claudio Strinati encore qui nous raconte une histoire. Une histoire qui est un peu drôle quand même. Il nous raconte la visite de Giorgio Vasari. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Giorgio Vasari est le premier historien de l'art qui a écrit des livres, deux éditions, les vies des sculpteurs, des peintres, etc. Le premier historien de l'art. Et il nous dit ceci, il a rendu visite à Michel-Ange et il demande à Michel-Ange de le guider dans Rome pour y découvrir toutes les fouilles qu'ils ont faites sur les œuvres de l'Antiquité, etc., etc. Et Michel-Ange se prête volontiers à cette visite, à servir de guide, quoi. Alors, je rappelle juste pour la petite histoire que c'est à ce moment-là que Michel-Ange rencontrera Titien au Belgodère. On est en 1545 et il rencontrera Titien pour la première fois. Et Titien rendra hommage dans une œuvre à Michel-Ange. Donc, Vasari, en revenant de leur promenade d'avoir visité les alentours de Rome et la ville, Strinati nous dit qu'il tourne autour de cette œuvre et à un moment, il ose y aller et il dit la chose suivante. Par rapport à cette œuvre, c'è un difetto maestro, il y a un défaut maître. Alors oui, il lui donne du maître, mais il lui dit quand même qu'il y a un défaut. Moi, je pense que vous et moi, on aurait été à côté de Michel-Ange, on aurait dit, on ne comprend pas tout, pourriez-vous nous expliquer ? Vasari, il y va carrément, il dit, il y a un défaut. Bon. Et Michel-Ange, dont on dit qu'il était colérique, etc., etc., il ne se fâche pas, en fait, et il lui demande de s'expliquer. Et Vasari va lui dire qu'il y a quelque chose. Le défaut, c'est que la mère est trop jeune. Elle est plus jeune que son fils. Si on estime l'enfantement à 18 ans, le fils à 33 ans, on est autour de la... Bon, on ne va pas faire des mathématiques, mais il trouve qu'il y a un défaut. Et là, Strinati nous rapporte que Michel-Ange lui répond « Non hai capito niente, Vasari. » Tu n'as rien compris, Vasari. Alors pourquoi, d'après Strinati, Vasari n'a rien compris ? C'est parce que cette œuvre-là, pour Michel-Ange, c'est une œuvre qui nous parle de l'éternité. Michel-Ange est un croyant. Alors d'abord, il se dit sculpteur et poète. Il ne se dit pas peintre. Il peint parce que ce sont des commandes du pape, ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Il peut acheter des terres, des vignes, etc. Mais il se dit poète. D'ailleurs, on trouve un très beau livre à la médiathèque ici, à Orléans, des poésies de Michel-Ange. Il se dit poète et sculpteur. Et cette œuvre s'oppose à une poésie, parce qu'au-delà d'écrire de la poésie, il a lu Dante Alighieri, il a lu Pétrarque, il a lu Boccace. Il s'oppose à une poésie de Pétrarque. Pétrarque a écrit 6 poésies qui s'appellent les triomphes. Les triomphes du temps, les triomphes de l'amour, les triomphes de la mort, les triomphes de la chasteté, les triomphes de la renommée, et je crois les triomphes de la vérité. Je ne sais plus pour le dernier. Les triomphes du temps, on va vous lire un passage, et on va lire un passage d'un poème de Michel-Ange qui s'oppose à ça, et qui est peut-être le reflet de cette sculpture. Donc voici un passage des triomphes du temps de Pétrarque.
Autant que je puis, je prépare ma fin.
Vas-y, je tiens.
Autant que je puis, je prépare ma fin en méditant cette mienne vie brève. Enfant à l'aube, et ce soir un vieillard. Qu'est-ce d'autre ? Qu'est-ce qu'un se... Pardon, je vois pas. Qu'est-elle d'autre ? Je recommence, excusez-moi. Je suis pas à l'aise avec ça. Autant que je puis, je prépare ma fin en méditant cette mienne vie brève. Enfant à l'aube, et ce soir un vieillard. Qu'est-elle d'autre qu'un seul jour, la vie ? J'ai beau parler, sans doute, en pure perte. Je vous le dis, le mal qui vous endort, point et bénin, qui fait périr votre âme. Passe les jours, et les mois, et les ans, vous comme moi, à bien peu d'intervalle, nous partirons pour une autre contrée. À ces humains, ces arbustes fragiles, sont réservés des abîmes d'oubli. Car passeront vos fastes, vos grandeurs, et passeront vos titres et vos royaumes. Le temps rompt tout, et ravit au moins bon, comme au meilleur, toute chose mortelle.
Donc Pétrarque nous dit que le temps rompt tout, c'est le triomphe du temps. Et à ça répond Michel-Ange le poème suivant. Maintenant, ma vie a traversé une mer orageuse, comme une frêle barque a atteint ce vaste port où tous sont invités. Maintenant, je sais combien cette fantaisie affectueuse qui a fait de mon âme l'adorateur et l'esclave de l'art terrestre est vaine. Combien criminel est ce que tous les hommes recherchent à contre-cœur. Ces pensées amoureuses si légèrement vêtues, que sentent-elles quand la mort est proche ? Ni la peinture, ni la sculpture ne peuvent maintenant endormir mon âme qui se tourne vers son grand amour d'en haut, dont les bras pour nous étreindre se sont sur la croix étendus. Donc Michel-Ange s'oppose à Pétrarque parce qu'il y a un sens d'éternité pour lui étant croyant. Mais rassurez-vous, Pétrarque a écrit un triomphe de l'éternité qu'on ne va pas lire ce soir et donc lui aussi adhère un peu à cette idée d'une éternité. Mais voilà. Mais surtout, Srinath, il nous dit que cette œuvre-là est peut-être... Voilà ce que nous dit Srinath. Dans cette œuvre, Michel-Ange tente de s'approprier le temps, tente de cristalliser ce concept de la lutte de l'homme contre le temps qui passe. Et peut-être est-ce cela la définition de l'art. Michel-Ange d'envisager que si l'on pense que le temps triomphe sur l'homme, on commet une erreur, car sur le temps triomphe l'éternité, nous dit-il. Voilà comment Strinat il lit cette œuvre et la jeunesse de cette jeune femme. Rappelons-nous que Michel-Ange avait 25 ans lorsqu'il a produit cette œuvre. C'est la seule œuvre qui signe parce que lorsqu'il a produit, il n'est pas connu. Et il y a un sculpteur milanais à Rome à ce moment-là, un vieux monsieur, et beaucoup de gens qui viennent visiter cette œuvre évoquent le nom de ce sculpteur milanais. Et c'est là, le courroux, il prend un coup de colère et il signe sur... La signature se passe avec un bandeau sur le vêtement de la Vierge, on ne voit pas là. Voilà, la signature est autour ici. Elle retombe et on a Michel-Ange, la date de... Il a 25 ans lorsqu'il fait ça. On peut dire la même chose de la déposition Balione de Raphaël. Il a 25 ans aussi lorsqu'il produit cette déposition. Donc on a là une expression d'une puissance quand même assez étonnante. Alors, arrivé à ce moment de... du temps qui passe, des effets du temps, je voudrais faire une petite digression et tenter d'amener, après ces images un peu graves et ces propos un peu graves sur le temps qui passe et rompt tout au meilleur et au moins bon, ça ne rassure pas que les moins bons soient mis à la même... Enfin, moi, ça ne me rassure pas, quoi. Mais bon, on aimerait rester encore un moment. Tenter d'amener un petit sourire avec un autre poème, un peu comme « Beaufront, beaux yeux », et c'est un poète de chez nous qui fait référence à Pétrarque. Alors il fait référence à Horace, mais aussi à Pétrarque. Je veux parler de qui ? De celui qui a écrit « Mignonne, allons voir, c'est la rose ». On est là sur l'idée du temps qui passe aussi. Et Ronsard fait référence à Pétrarque, pourquoi ? Ce poème est écrit pour Cassandre, Cassandre qui s'appelle Salviati, une Italienne. Le père est un riche banquier qui finance le roi de France. Ils sont propriétaires du château de Talcy. Ils rencontrent cette jeune Cassandre dont il tombe amoureux et il écrit « Mignonne, allons voir si la rose ». Donc vous voyez qu'on est toujours autour de cette idée du temps qui passe, mais pour des choses qui sont aussi joyeuses. Parce que ce poème, je pense que mesdames, on vous l'a tous lu et messieurs, vous l'avez lu à toutes les dames. J'imagine aisément que tout le monde a dû le faire. Mais plus important encore, c'est... Je vous ai parlé des oratoriens. Nous avons parlé, pardon, je dis « je », mais je ne dois pas le faire... il y a aussi un musicien qui a écrit un oratorio sur le temps et qui a donné ce titre à son oratorio, Le triomphe du temps. Il a rajouté « et de la désillusion ». Mais il fait référence aussi à Pétrarque. Et ce musicien, c'est Händel. Händel se trouve en Italie pendant à peu près 4 ans, Venise, Naples. Enfin, moi, je ne suis pas bon en musique, mais j'ai lu des choses et je voulais vous les rapporter. Parce que cet oratorio, Le triomphe du temps et de la désillusion, je l'ai écouté par hasard l'autre jour et il y a des choses qui sont dites qui sont à la fois merveilleuses et dramatiques, mais peut-être que la dramaturgie est merveilleuse et l'inverse est vrai, j'en sais trop rien, quoi. Dans cet oratorio, Händel installe 4 personnages, 4 allégories, la beauté, le plaisir, le temps et la désillusion. La beauté dit chante la chose suivante, alors je ne vais pas chanter. Fidèle miroir, en toi je contemple l'éclat de mes jeunes années, et cependant un jour je changerai, et je ne serai plus aussi belle qu'en ce moment. Le plaisir vient l'accompagner en disant, moi je jure que toujours tu seras belle, et jamais je ne te quitterai. Vous voyez, le plaisir veut absolument qu'on reste beau, jeune. Et là, le temps prend la parole et dit « Et moi qui suis le temps, uni à la désillusion, je vais montrer que la beauté est une fleur qui en un seul jour s'épanouit et meurt. » Et là, on revient à Ronsard. Donc vous voyez, tous ceux qui nous ont légué tout ce travail nous parlent de quelque chose qui nous occupe encore aujourd'hui et nous occupera peut-être jusqu'au bout des temps. La beauté reprend la parole et dit « En fait, la beauté aimerait posséder 2 cœurs, l'un pour le repentir et l'autre pour le plaisir. » Je vous laisse méditer là-dessus. Ici, nous avons une œuvre qui s'appelle « La Pietà Rondanini », une œuvre de Michel-Ange, une œuvre inachevée, mais probablement volontairement inachevée, parce qu'il y a d'autres œuvres de Michel-Ange inachevées. On appelle ça aujourd'hui, avec un peu de prétention, l'esthétique de l'inachevé. Je pense que ce n'était pas le terme qui devait être utilisé, mais l'inachèvement d'une œuvre était quelque chose qui se pratiquait pour pas mal d'œuvres, quoi. Donc ici, la Pietà Rondanini, parce qu'on l'a découverte dans une villa, qui était une villa Rondanini. Et là, c'est Claudio Strinade qui nous en parle encore. Il nous raconte qu'au lendemain de la mort de l'artiste, un employé du tribunal de Rome vient pour établir l'inventaire des biens dans l'atelier et la maison de Michel-Ange. C'est l'œuvre, la dernière œuvre à laquelle il a travaillé. Devant ses sculptures, cet employé modeste écrit dans son procès-verbal « un Christ commencé et non fini, et une sculpture au-dessus, toutes deux attachées ensemble. Deux figures attachées ensemble. Esrinat dit d'ajouter que cet employé modeste, sans le savoir et sans le vouloir, accueillit la poésie même de l'œuvre, la signification profonde du message de cette déposition. C'est aussi une déposition. Pour Claudio Strinati, Michel-Ange est la figure même de la Renaissance, car en évoquant si fréquemment le sujet de la mort, Michel-Ange évoque aussi et surtout le temps de la Renaissance. Et pour que El Rinascimento, renaître à nouveau, puisse avoir lieu, il doit y avoir inexorablement le temps de la mort. C'est pour ça que pour Strinati, Michel-Ange est vraiment l'artiste type de la Renaissance. Ici, je voudrais faire référence à une œuvre de Titien, en référence à une œuvre de Michel-Ange qui était tout à l'heure, ce qu'on a oublié peut-être de lui donner son nom, la Pietà de Florence, parce que Michel-Ange se représente en Nicodème, hein, vous vous rappelez. Et ici, on a une œuvre de Titien. D'abord, il faut savoir que Titien est vénitien. Il travaille pour plusieurs cours, mais il est vénitien, il n'est pas florentin, il n'est pas romain. Il refuse alors d'aller travailler à Rome, il refuse à Pietro Bembo, un personnage important de la Renaissance, qui lui aurait ouvert les portes, mais il dit non, à Rome je serai le numéro 3, parce qu'il y a Michel-Ange et Raphaël, moi je vais être le numéro 1 là où je suis. Quoi. Une ambition qui me paraît assez juste. Et deuxième élément, c'est que la Pietà ne se peint pas à Venise, c'est très rare. En voici une œuvre, mais c'est très rare. Donc c'est la Pietà de Titien, qui lui se représente ici, en Saint-Jérôme. Pourquoi en Saint-Jérôme? Parce qu'il a souvent peint des Saint-Jérômes, ce sont des peintures, comme des memento mori. Regardez à côté du Saint-Jérôme, sur la gauche, il y a un crâne. « Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. » Hein, c'est cette idée, toujours le rapport au temps. Quoi. Cette œuvre de Titien est créée à la fin de sa vie. Et il faudra que Palma le Jeune, le collaborateur de Titien... Alors, un mot. Titien a été dans un atelier des Bellini avec Palma il Vecchio, dont il sera un grand ami. Et Palma il Vecchio, un enfant qui va travailler avec Titien, Palma il Giovane, Palma le Jeune. Donc il va finir cette œuvre-là, Titien n'aura pas eu le temps de la finir. Elle devait être installée dans la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, parce que Titien, dans cette église, avait travaillé sur deux grandes œuvres, l'Assomption de la Vierge et la Madone Pesaro. Et il avait demandé à la communauté que cette œuvre-ci, cette Pietà puisse être posée au-dessus de sa sépulture. Michel-Ange avait fait la même chose pour la sculpture qu'on a vue tout à l'heure, la sculpture, la Pietà de Florence, où il se représente en Nicodème. Et les deux œuvres, aucune des deux, ne seront déposées sur leur sépulture. Voilà, c'est aussi là un rapport, une coïncidence entre les deux. L'anachronisme perçu par le responsable de la communauté ici pour refuser que cette œuvre soit déposée sur la sépulture de Titien est le fait que Titien s'est représenté en Saint-Jérôme. Et donc il considère, le responsable de la communauté, qu'il y a un anachronisme. Saint-Jérôme ne peut pas être auprès de la Vierge, le Christ venant d'être crucifié. Et dès lors, il n'a pas vu la symbolique, il n'a pas vu l'allégorie qui représentait Saint Jérôme pour Titien, et donc ils n'ont pas accepté cette œuvre qui leur paraissait erronée d'un point de vue historique. Quoi. Donc c'est vraiment un peu... Voilà, on vous raconte ça parce que cette histoire est vraie. Au centre de l'œuvre, Marie tenant le Christ dans ses bras, on y voit Madeleine, que l'on peut noter, l'absence de Saint Jean, généralement Saint Jean est là dans les Pietas, qui est fréquemment auprès de Marie dans quasiment toutes les Pietas. Mais sont représentées ici deux autres personnes inhabituelles, mais désignées au pied de leur piédestal par leur nom. On a Moïse et la Sibylle de Troie. Vous voyez, Moïse avec les textes de la loi, les 10 commandements, et puis la Sibylle de Troie, sur notre droite. Dans le demi-dôme, demi-dôme probablement peint en hommage au maître musicien Giovanni Bellini, qui peignait souvent des demi-dômes au-dessus de ses vierges, de ses conversations sacrées, au-dessus de la scène est réalisée une mosaïque dont la figure principale est un pélican qui est le symbole de la notion de sacrifice en nourrissant ses petits avec ses propres entrailles. Voilà, ici vous avez un pélican, voilà, qui est le symbole, symbole de cette qui nourrit ses enfants avec son propre sang, quoi. Le personnage qui permet de rapprocher les démarches de Michel-Ange et de Titien, représenté par l'homme qui s'agenouille auprès de Marie et de son fils, et dont la main gauche prend délicatement la main du Christ et la main droite est posée sur son bras. Ce personnage, Saint Jérôme, par la ressemblance habituelle que l'on accorde de plus en plus à penser que c'est Titien lui-même qui s'est représenté, car ce personnage, si l'on déplace notre regard sur la droite, ici on a un tableau dans le tableau, ce qu'on appelle un ex-voto. On va le voir le détail. C'est un ex-voto où on a une Pietà, la Vierge avec le corps du Christ sur ses genoux, et on a Titien et son fils, Orazio qui mourra quelques jours après son père de la peste à Venise à ce moment-là. On pense que Titien est mort de la peste, mais certains historiens de l'art refusent de le penser parce qu'il a été enterré dans une église et on rapporte que dans les églises, on n'enterrait pas les gens atteints de la peste. Mais à ce moment-là, la peste est survenue, son fils va mourir, mais voilà, moi je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Ce texte auto cache en partie les armoiries de la famille de Titien. On y découvre Titien et son fils Orazio, dont nous devons rappeler la mort aussitôt après. Si on établit un lien entre les deux gestes de ces deux peintres, et sculpteurs pour Michel-Ange, c'est aussi parce que la Pietà était rarement peinte à Venise. Je vous l'ai déjà dit, mais j'avais oublié de lire la phrase. On a quasiment fini cette deuxième promenade avant de passer aux deux héroïnes, mais vous montrer quelques images sans les commenter vraiment, mais pour vous montrer un peu les expressions variées sur ces mêmes thèmes. Ici, on a une... Alors, est-ce une déposition, une descente de croix? Il n'y a pas de croix, mais on ne sait pas. Pontormo. Regardez ces couleurs, on est dans les années 1600, regardez ces couleurs, on le croirait pas si Pontormo... Donc voilà quelques détails. En plus, ici, Joseph d'Arimathie et Nicodème ne sont pas vieux. Regardez, ces personnages sont là, ils sont tous là. Hein. On a des choses très surprenantes. Et Vasari parle de Pontormo en disant « Cette peinture a beaucoup surpris lorsqu'elle a été installée dans la chapelle qui était prévue pour ça. » Voilà la mer. Et voilà le visage de Pontormo qui se peint lui-même. Un autoportrait de Pontormo. Une autre œuvre de la même époque, Rosso Fiorentino, la même époque. Regardez, là encore, des couleurs différentes de Pontormo, mais très vives, et puis une gestuelle très dynamique, quoi. Là, on a une descente de croix, réellement. C'est juste pour le plaisir de vous montrer quelques images sur ces thèmes-là. Alors, par contre, un homme étonnant, un peintre étonnant, Antonello de Messine. Ce sont des Pietas, deux Pietas. Ce qui est surprenant, c'est que ce sont des Pietas qui ne sont pas les Pietas de Rome, de Florence. Il n'y a pas la Vierge, il n'y a pas Saint Jean. Et elles s'appellent des Pietas. Elles sont désignées comme ça par le peintre lui-même, quoi. Alors, elles ont une puissance qui est aussi très présente. Voilà. Antonello de Messine, dont un jour, il faudra peut-être parler du lien qu'il a créé entre les peintres du Nord, les primitifs flamands, et les peintres de l'Italie, quoi. Alors, il nous avait déjà surpris, parce que ici on a une annonciation d'Antonello, et on n'a pas d'ange. Les annonciations, c'est généralement Gabriel qui vient annoncer, et les peintres présentent la scène des deux. Et ici, il nous présente une annonciation qui fait face au spectateur. Donc, Antonello a une expression qui lui est propre, mais tout aussi riche de puissance et de beauté, quoi. Nous en avons terminé pour les deux premières promenades et nous allons partir en promenade en compagnie de deux héroïnes, Suzanne, dans le texte Suzanne et les vieillards, et ensuite Judith dans le texte Judith et Holoferne. Et là, c'est Josiane qui va nous lire l'histoire de Suzanne.
Suzanne, fille d'Elcias, était très belle et était l'épouse de Joachim. Ses parents étaient justes et avaient instruit leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il avait un jardin près de sa maison. On avait établi juge pour cette année-là deux anciens pris parmi le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des litiges venaient à lui, à eux. Lorsque le peuple se retirait vers le milieu du jour, Suzanne entrait pour se promener dans le jardin. Les deux anciens la voyaient pour entrer et se promener. Ils furent pris de désir pour elle. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons donc chez nous, c'est l'heure du dîner. » Ils sortirent et se séparèrent. Mais ils revinrent et se rencontrèrent à la même place. S'étant mutuellement interrogés sur la raison, ils s'avouèrent leur désir et désirèrent ensemble d'un moment où ils pourraient la trouver seule. Comme ils guettaient une occasion favorable, il arriva que Suzanne entra dans le jardin, comme elle l'avait fait la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles, et désira se baigner parce qu'il faisait très chaud. Il n'y avait là personne, sauf les deux anciens, qui s'étaient cachés et la guettaient. Elle dit aux jeunes filles, « Apportez-moi donc de l'huile et des parfums, et fermez les portes du jardin pour que je me baigne. » Elles firent ce qu'elle avait dit, fermèrent les portes et sortirent par celle de derrière pour apporter ce qu'elle avait demandé. Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens se levèrent et coururent à Suzanne et lui dirent « Voici les portes du jardin fermées. Personne ne nous voit et nous sommes pleins de désir pour toi. » « Donne-nous donc ton assentiment et sois à nous. Sinon, nous témoignerons contre toi qu'un jeune homme était avec toi et que c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Alors Suzanne cria d'une voix forte, mais les deux anciens crièrent aussi contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Quand les gens de la maison entendirent les cris poussés dans ce jardin, ils se précipitèrent par la porte de derrière pour voir ce qui était arrivé. Lorsque les anciens eurent parlé, les serviteurs furent dans une grande confusion, car jamais on n'avait dit chose semblable de Suzanne. Le lendemain, quand le peuple se fut rassemblé chez Joachim, mari de Suzanne, les deux anciens arrivèrent, emplis de pensées criminelles contre elle, pour la faire mourir. Ils dirent en présence du peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elcias, femme de Joachim. » Elle vint avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Les anciens dirent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, celle-ci est entrée avec deux servantes. Elle a fait fermer les portes du jardin et les a renvoyées. » Puis un jeune homme, qui était caché, est venu vers elle et a pêché avec elle. Comme nous étions dans un coin, en voyant le crime, nous avons couru vers eux et nous les avons vus s'unir. De lui, nous n'avons pu nous rendre maître, parce qu'il était plus fort que nous et qu'ayant ouvert les portes, il s'est échappé. Mais elle... Nous lui avons demandé qui était ce jeune homme et elle n'a pas voulu le révéler. De tout cela, nous sommes témoins. Et l'assemblée les crut parce qu'ils étaient des anciens et juges du peuple et ils la condamnèrent à mort. Alors Suzanne cria d'une voix forte et dit « Dieu, qui connaît les secrets et qui sait tout avant que cela n'arrive, tu sais qu'ils ont porté un faux témoignage contre moi. » Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'Esprit Saint d'un jeune garçon nommé Daniel qui cria d'une voix forte « Êtes-vous tellement insensés sans avoir jugé, sans connaître la vérité, vous condamnez ? Retournez au tribunal, car ils ont porté contre elle un faux témoignage. Séparez-les l'un de l'autre, et je les jugerai. Quand ils furent séparés, Daniel en appela un et lui dit « Eh bien, si tu l'as vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus s'entretenir ensemble. » Il répondit « Sous un lentisque. » L'ayant renvoyé, il ordonna d'amener l'autre et lui dit « Eh bien, dis-moi sous quel arbre tu les as surpris conversant l'un avec l'autre. » Il dit « Sous un chêne. » Alors toute l'assemblée put constater l'innocence de Suzanne et ils se levèrent contre les deux anciens que Daniel avait convaincus par leur propre bouche d'avoir porté faux témoignage.
Ici, c'est la représentation de cette histoire dans l'évolution des peintures. La représentation peinte de cette histoire a fortement varié. Les premières représentations connues datent de la période paléochrétienne, plus précisément du IIIe siècle après notre ère, avec des exemples relevés dans une dizaine de catacombes, mais aussi sculptés sur la cuve ou le couvercle de plusieurs sarcophages. Ces représentations retracent alors les différentes scènes suggérées par le récit biblique, c'est-à-dire aussi bien le moment du bain que celui du procès ou encore la punition des vieillards. Suzanne apparaît alors généralement en orante et les représentations de la nudité du bain sont rares. La représentation de ce récit consistait à ce moment-là à démontrer une innocence injustement bafouée face à la méchanceté humaine et bien heureusement sauvée par l'intervention divine. Dans ce cadre, des représentations allégoriques de ce récit se sont développées, telles que celle de la catacombe de Praetestatus à Rome, représentant Suzanne et les Vieillards sous la forme d'une brebis flanquée de deux loups. Enfin, moi, j'ai été merveilleusement surpris par cette œuvre, parce qu'il y a une innocence extraordinaire dans cette œuvre qui reflète bien ce que le texte disait à cette époque-là, quoi. Donc, je vous laisse deviner qui est Suzanne et qui sont les loups, bien sûr. Le thème se perd pendant plusieurs siècles et réapparaît au milieu du 9e dans les Bibles, les psautiers ou encore les livres d'heures comme celle-ci. Entre le 9e et 15e siècle, la représentation de Suzanne et les Vieillards est de moins en moins allégorique mais ne se concentre pas encore sur la scène du bain comme ce sera le cas plus tard. À l'image de l'art paléochrétien, les représentations médiévales se focalisent surtout sur la représentation de l'innocence bafouée comme une illustration exemplaire du bien face au mal, mais surtout de la victoire du bien sur le mal. Au cours du XVe siècle, le thème passe lentement du religieux au profane. Il s'agit d'une période charnière qui consiste en une transition de l'allégorie vers le réel, de la sainte vers la femme. Dans ce cadre, les représentations exploitent davantage la scène du bain et la nudité de Suzanne occupe une place centrale. La prégnance érotique du sujet s'impose entre le XVIe et le XIXe siècle, réduisant l'importance des autres passages du récit. Tintoret a peint cette œuvre, cette histoire, 6 fois. En voici 4 exemplaires. Le caractère érotique des œuvres prend parfois la forme d'une menace imminente pour Suzanne, les vieillards passant d'une attitude relativement passive à une véritable agressivité dans certaines œuvres, comme celle-ci, Alessandro Allori. C'est bien un viol qui est suggéré avec 2 vieillards qui profitent de leur supériorité et de leur force physique. Chez Véronèse, en installant un satyre dans la scène, est fort explicite sur le choix moral qu'il affiche, malgré la représentation des anciens élégamment vêtus et d'un petit chien auprès de Suzanne, qui peut nous indiquer la fidélité à son époux. Jacopo Passano fait figurer un loup et un lapin, symbole respectivement de cruauté et de luxure. Le lapin. Ouais, l'œuvre est en très mauvais état. Avant de quitter ce thème de Suzanne et les Vieillards, je vais vous lire un passage d'une auteur ou autrice de notre région à nous, Michel Desbordes. Michel Desbordes a écrit un livre d'une délicatesse extrême, La Demande, qui raconte la vie de la fin de la vie de Léonard de Vinci avec sa servante, etc. Mais aussi écrit un autre livre. C'est pas Petites Histoires, mais c'est de... Ah, ça y est. Artémise et autres proses. On le trouve à la médiathèque aussi. Voilà ce qu'elle écrit à propos d'Artémise et Gentiles, qui passait d'elle, dont on va parler, dans cette œuvre-ci. Voici l'œuvre, la première œuvre créée par Artémise et Gentiles, dont nous dit la chose suivante, Michel Desbordes. « À 17 ans, on la découvrit nue, dans la brillance des chairs, sur une des toiles qu'elle peignit. Dans l'atelier, elle avait fait installer un miroir et se figurait en Suzanne parmi les vieillards. » Donc c'est un autoportrait, elle a 17 ans à ce moment-là, mais surtout, c'est un moment où elle n'a pas encore connu le drame qui suivra très peu de temps après, le viol qu'elle subira, dont on voit à travers les œuvres suivantes, et on verra les dernières promenades avec Judith et Holoferne. Mais regardez cette œuvre-ci, sa première œuvre à 17 ans, qui est quand même lumineuse. Elle a peint 4 fois l'histoire de Suzanne et les vieillards. Et là, on est dans une des couleurs plus sombres. Voilà les 4 œuvres d'Artémise et Gentiles, qui, dont la première, je reviens là-dessus, elle a 17 ans, lorsque c'est sa première œuvre, a priori, qu'on découvre, et c'est Roberto Longhi qui lui attribue, là encore. Bon, voilà ce que nous dit Michel Desbordes, j'ai été heureux de découvrir qu'elle nous parle, qu'elle nous dit quelques mots sur cette œuvre-là. Comme nous avons, entre la première et la deuxième promenade, nous avons pris prétexte de 2 œuvres de Raphaël. Ici, nous allons prendre prétexte des œuvres de Artémise. On va passer de Suzanne et les vieillards à Judith et Holoferne. Et voici 2 œuvres qui se suivent de Artémise et Gentiles. Cette histoire de Judith, Josiane va nous en lire l'histoire. Judith.
Judith et Holoferne. Nabucodonosor II a envoyé Holoferne, un de ses généraux, châtier les peuples de l'Ouest parce qu'ils ont refusé de le soutenir dans la guerre qu'il a menée contre le roi perse. Après avoir pillé, tué et ravagé tout le Proche-Orient, Holoferne assiège Béthulie, une ville juive, qui barre un passage dans les montagnes de Judée. Il dévasta leur sanctuaire, coupa les arbres sacrés, conformément à la mission reçue d'exterminer tous les dieux indigènes pour obliger les peuples à ne plus adorer que le seul Nabucodonosor et forcer toute langue et toute race à l'invoquer comme dieu. Durant 34 jours, assiégés, les habitants de Béthulie virent se vider toutes les jarres d'eau et les citernes s'épuiser. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif. Épuisés et résignés, tous les habitants se réunissent autour d'Ozias, le prince de la cité, et décident de prier leur Dieu, leur Seigneur Dieu, durant 5 jours, à l'issue desquels ils se livreront aux Assyriens si aucun secours ne leur parvient. C'est dans ce contexte qu'intervient l'action de Judith, une jeune et belle femme d'une grande sagesse et très pieuse depuis son veuvage, survenu 3 ans plus tôt. Elle rencontre Ozias et d'anciens chefs de la ville, leur fait part d'un plan, sans en dévoiler la nature, afin de sauver son peuple. « Écoutez-moi bien. Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Vous, trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi, je sortirai avec ma servante et ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire. Je ne vous le dirai pas avant de l'avoir exécuté. » Judith parvient au camp d'Holoferne. Elle précise au général son plan d'inspiration divine, destiné à lui livrer les Hébreux. Séduit et convaincu par la sagesse de ses paroles, Holoferne la laisse agir en toute liberté, lui permettant même chaque soir de sortir du camp pour aller adorer son Dieu. Le quatrième soir, Holoferne donne un grand banquet où sont invités ses officiers et Judith, qui a su gagner sa confiance. À la fin du repas, Judith fut laissée seule dans la tente avec Holoferne, effondrée sur son lit, noyée dans le vin. C'est le moment idéal pour mettre en œuvre son plan. Elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête d'Holoferne, en détacha son cimeterre, puis, s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur !» Par deux fois, elle le frappa au cou de toutes ses forces et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante qui la mit dans la besace à vivre. Et toutes deux sortirent du camp, comme elles avaient coutume de le faire, pour aller prier. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin, gravirent la pente de Béthulie et parvinrent aux portes de la ville. Quand les soldats découvrent au matin leur chef assassiné, ils sont pris de panique, beaucoup s'enfuirent et les autres succombèrent.
Donc ici nous avons deux œuvres d'Artémise et Gentiles qui ont, avec les particularités suivantes, le visage de Judith et son propre visage, un autoportrait, et le visage de Loferme et le visage de son violaire à Augustino Tassi, qui l'a violée très jeune, qui avait promis de se marier avec elle, mais était déjà mariée. Un procès a eu lieu, et là-dessus, Artémise Gentile a subi un deuxième outrage, c'est l'examen gynécologique qui a été fait par le tribunal ecclésiastique, enfin quelque chose d'une horreur fantastique. Et on peut penser que cette œuvre-là nous dit quelque chose, mais elle nous dit quelque chose sur lequel on peut réfléchir, parce que, regardez par rapport à l'œuvre de Caravage. L'œuvre de Caravage, c'est Judith qui agit, et la servante est là pour recueillir la tête d'Holoferne, tel que le texte le dit. Dans le travail d'Artémise, il y a les deux jeunes femmes, la servante et Judith, agissent de concert, commettent le même acte. Elle nous dit quelque chose de fort particulier, probablement. On a des aspects de Caravage, parce que son père était un grand ami du Caravage, le père d'Artémise. On a quelque chose du caravagisme, comme on dit, mais on a autre chose qui nous est dit. Les deux femmes agissent de concert, et qui plus est, la servante est aussi jeune que Judith. Il y a quelque chose à qui est... Voilà, moi qui m'interroge, mais je n'ai pas de réponse, je n'ai pas... L'œuvre de Caravage, ben oui, cette œuvre-là est aussi... on l'a dans notre mémoire, bien sûr, parce que... Alors on dit de cette œuvre quelque chose d'étonnant, que Judith est un peu la fornarina de Raphaël. Regardez, elle pose un geste qui est loin de sa représentation. Voilà, mais c'est Caravage qui... peut se permettre d'opposer de telles... On a ici une œuvre, d'autres œuvres. Rapidement, pour finir sur une dernière œuvre, pour nous, comme on vous a présenté la première œuvre, la Madonna del Soletico, pour être éventuellement saisie par enchantement, la dernière, pour nous, sera la même proposition qu'on vous fera, mais regardons celle-ci. Cristoforo Allori. Allori a peint cette œuvre en partie en tant que compte-rendu autobiographique de son histoire d'amour avec Maria de Giovanni Mazzafrieri, qui s'est mal terminée. La figure de Judith, selon Baldinucci, Baldinucci était le correspondant de la famille d'Allori, donc la figure de Judith ressemble à la Mazzafrieri dont était amoureux Allori. Et la tête coupée d'Holoferne est un portrait de l'artiste lui-même. Oui, hein. Une autre œuvre ici, très surprenante, que je ne connaissais pas, Saraceni. On y découvre la méthode du Caravage, car ils ont été proches l'un de l'autre. Et cette œuvre, elle se trouve dans la fondation Roberto Longhi, près de Florence. Et enfin, une sculpture de Donatello, mais ce n'est pas pour la sculpture parce qu'on ne la voit pas bien, mais pour la phrase qui est écrite en dessous de la sculpture. Voici ce qui est écrit sur la sculpture. Ce à quoi j'aimerais bien croire, et j'imagine que vous aussi. Les royaumes tombent par la luxure. Les villes s'élèvent par la vertu. Regardez la nuque de l'orgueil coupée par la main de l'humilité. C'est très beau, mais est-ce très vrai ? On va finir sur une Judith qui est la Judith de Giorgione. Giorgione est l'associé, le maître, on ne sait pas trop, de Titien. Mais c'est surtout un ami parce qu'ils ont peint ensemble et ils ont peint des fresques extérieures dans, sur des entrepôts, des bâtiments à Venise, de belles demeures, etc., qui ont disparu depuis, etc. Donc ils ont travaillé ensemble. Et au moment de la peste en 1510 à Venise, Titien quitte Venise pour aller à Padoue, où il va commencer ses premières peintures, ses premières fresques, et puis pour fuir la peste. Et Giorgione ne fuit pas Venise parce qu'il est amoureux d'une femme. Giorgione est musicien, il organise des fêtes, et il est amoureux d'une femme qui est atteinte de la peste, et il veut rester là pour la soigner. Oui, on peut dire que lui est mort d'amour, puisqu'il est atteint de la peste que sa compagne avait. Giorgione est un personnage dont il faudra parler peut-être un jour. Cette œuvre-ci, c'est la dernière image que l'on va vous proposer. Judith, on va la décrire rapidement, occupe le milieu du tableau, portant une tunique rose au drapé élaboré, maintenue à la taille par une ceinture nouée, sur une chemise blanche, dont le plissé dépasse de l'encolure. Ses cheveux lissés, divisés par une rémillane, sont tirés à l'arrière et des mèches tortillées et serpentines laissées libres retombent de chaque côté. Par-delà un mur en briques situé immédiatement derrière Judith, sur laquelle épose le coude, le tronc d'un chêne se dresse sur le côté droit, un paysage sur le fond du tableau montre dans le lointain une ville avec ses tours. Giorgione élude la narration de l'épisode tragique de l'assassinat d'Holoferne ou de celui triomphant du retour de l'héroïne chez les siens à Béthulie. Sa Judith est un exemple de vertu et de prérogative. Elle est représentée lors d'un instant méditatif et atemporel. Cette jambe découverte et nue met en évidence la séduction déployée par Judith à l'égard d'Holoferne afin de rendre possible son meurtre. Lorsque se rapproche de son visage, ce que l'on va faire, on ne sait si Judith a les yeux baissés vers la tête d'Holoferne ou bien ses yeux clos la renvoient en son fort intérieur méditant sur l'acte qu'elle a commis, acte imposé par les hommes, acte qui rentre dans l'histoire. De la même façon que nous avions réfléchi longuement à la première image que nous souhaitions vous offrir, cette dernière image est aussi l'expression de notre choix pour vous offrir cette représentation d'un visage dont la délicatesse trouve difficilement à nos yeux son qualificatif. Nous vous remercions. Ça a été un peu long, hein, pardon.
Non.
Si, quand même, si, parce que.
Non,
on dit 1h10, 1h15, on a été plus long. Il faut y aller. Désolé. Voilà, donc, promenade.
Merci.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ça lui est l'heure, ce qui n'est pas tard.
Oui.
C'est pas moi, hein, c'est les historiens.
Il est grâce aux historiens, peut-être.
Ah oui.
Quand même,
oui. C'est vrai que... Mais grâce au travail de Jean-Étienne, qui a fait un boulot magnifique.
Mais il faudra peut-être qu'Annick un jour nous parle des oratorios écrits en Italie, quand même. Ah non, pardon. Pardon, Annick, pardon. Désolé. Non.
Ah non, mais
et
puis quand on voit ce visage...
Il est magnifique. C'est pur. C'est un visage spirituel. C'est magnifique. Finalement, ce petit bout que tu m'as donné l'autre jour, je ne savais pas où le raccrocher. J'ai relu toute ta conférence. Je te le rends.
Non.
Non, tu voulais... Parce que...
Non, je voudrais revenir.
Je vais
Non, on va pas. J'aurais oublié quand même, mais non, on va pas. On va. Voilà. Merci.
On va conclure. Donc un jour, Annick vous parlera.
Ah non, c'est pas bon, mais vraiment, c'est un plaisir. Merci.